C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
La 22e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP22, s'est donc terminée dans la nuit de vendredi à samedi. Dans leur déclaration finale, les négociateurs, venus de 193 pays, ont exprimé leur satisfaction d'avoir avancé sur de nombreux points techniques. Mais à quelques kilomètres du centre de conférence, les sols se dessèchent, les migrations s'intensifient, la colère des plus pauvres face aux pollutions et aux crises multiples monte. Les victimes des changements climatiques ne sont pas dans les couloirs des négociations onusiennes et cette déconnexion pourrait bien aboutir à une vague de violence sociale. D'où l'importance de projets comme l'Odyssée des initiatives.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Durin, je suis l'un des deux coordinateurs généraux de l'Odyssée des alternatives Ibn Battuta.
Alors on s'est retrouvé ici, donc on est au nord-ouest de Marrakech, on est un peu loin des couloirs officiels de la COP22. Ici c'est l'espace autogéré, c'est hébergé par la faculté des sciences et techniques Kadi Iyad. Expliquez-nous ce que c'est que cet espace.
L'espace autogéré a été organisé par la coalition marocaine pour la justice climatique, c'est-à-dire environ 200 associations et énormément de partenaires qui ont donc choisi de faire entendre la voix de la société civile à l'occasion des mobilisations entourant la COP22.
Et vous êtes donc venu présenter l'Odyssée des alternatives. Quel est le principe de cette odyssée qui a démarré le 19 octobre ?
Alors, son principe, c'est de relier les territoires, relier les porteuses et les porteurs de solutions, il y en a partout, en Méditerranée et au Sahel.
Un odyssée, ça se fait en bateau, et c'est ce que vous avez fait.
Exactement, l'Odyssée des alternatives s'est passée en bateau, en voilier, un voilier et un catamaran qui ont relié 6 territoires, qui ont commencé le 19 octobre à Barcelone, puis le 21-22 à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon, puis les bateaux sont partis en direction de la Sardaigne. Puis ensuite, ils sont allés jusqu'à Bizerte, en Tunisie, et les équipages sont descendus jusqu'à Gabès. On est allé ensuite à Alger, puis à Oran, et au final, nous sommes arrivés à Tanger.
Et finalement, Marrakech,
effectivement.
Alors, on va essayer de voir quelles sont ces stratégies que vous êtes allé voir au cours de votre odyssée, puisque là, on a la chance d'arriver à la fin, donc il y a plein de gens qui sont réunis, c'est l'odyssée concentrée, finalement. Alors, on va démarrer par l'escale à Barcelone. C'est vous qui étiez en charge de la gestion de cette escale, vous pouvez vous présenter ?
Oui, bonjour, je m'appelle Élise Monge, et effectivement, j'étais en charge de la coordination de l'escale à Barcelone, en Catalogne.
Alors, quelles sont les alternatives que vous avez présentées ?
En termes de solutions, on a pu voir la coopérative intégrale qui met en place des centaines de projets dans l'économie sociale et solidaire. Je vais en citer un seul, mais la monnaie locale EcoCops qui permet de relocaliser l'économie, de favoriser les producteurs locaux, donc de favoriser l'agriculture paysanne. Voilà.
Alors, autre escale, Guillaume ?
L'escale de la Seine-sur-Mer. La mairie de la Seine-sur-Mer nous a accueillis bras ouverts. C'est une commune, vous le savez, qui a été ravagée par la crise industrielle. C'était un chantier naval français qui était là-bas. Cette commune est en transition. On a eu un partage très fort avec les associations issues de l'immigration, avec les associations s'intéressant à la question des migrants, et puis avec les mouvements engagés sur la transition et pour la lutte contre le changement climatique. Et on a favorisé ce temps-là avec une association comme la Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté de rive, avec des associations comme Passons-nous. Eh bien, ces acteurs-là, qui se sentent très loin de la question du climat, comprennent qu'en fait, c'est une question de bien commun, que la démocratie, c'est également, ça devient également un bien commun, et qu'on a donc des choses à se dire, qu'on peut faire construire des mobilisations ensemble. C'est aussi la question de la désobéissance civile qui est posée. Si face à nous, on a des décideurs qui n'entendent pas et que les crises sont de plus en plus graves, il est de notre possibilité de nous lever légitimement pour dire non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à polluer, non, c'est pas possible, on ne peut pas continuer à détruire les tissus sociaux. Il faut refuser ça et en proposant des solutions. Il faut proposer concrètement, il faut arrêter les discours et aller sur les propositions concrètes dès maintenant en France et ailleurs en Méditerranée. Les gens de Méditerranée et du Sahel ont énormément de choses à nous dire sur nous-mêmes et sur eux et ensemble, on peut construire une société plus juste, plus solidaire et plus soutenable.
Justement, traversons la Méditerranée, c'est facile, en passant d'une chaise à l'autre. On va en Tunisie, à Gabès. Bonjour.
Bonjour, Khairdin Dbeye, min Gabès.
Bonjour, Khairdin Dbeye, membre du groupe Stop Pollution Gabès et l'un des qui a organisé l'escale tunisienne de l'Odyssée Ibn Battuta.
Alors vous avez en effet un beau polo rouge, Stop Pollution. Alors expliquez-nous la situation de la ville de Gabès.
Gabès, c'est une ville martyrisée depuis 1974, quand on implantait, disons, la zone industrielle.
Donc qu'est-ce qui se passe dans cette ville ?
Il y a le rejet de phosphogypes dans la mer qui cause la disparition des espèces et des types de poissons.
Qu'est-ce que c'est le phosphogypes ?
Déchets de phosphate après le traitement. Voilà, et la santé des gens de Gabès, c'est maintenant une catastrophe avec un taux de cancer très élevé.
Et il faut bien dire que nous, quand on y allait, ce qu'on a vu, c'est un paysage extrêmement chaotique et des gens qui sont en train de s'habituer à ce que les enfants naissent mal formés. Les signes sont très très clairs. On évalue, les habitants et les gens concernés évaluent à plusieurs dizaines de milliers d'emplois concernés par l'agriculture sur place. Maintenant, c'est 4000 emplois pour l'industrie. Et des conséquences environnementales et sanitaires énormes. Qu'est-ce que les gens de Gabès y ont gagné ? Qu'est-ce que la Tunisie y a gagné ? Rien. Rien du tout.
Alors, autre pays et autre escale, l'Algérie, bonjour.
Bonjour, je m'appelle Larbes Nazim. Donc, je fais partie d'un collectif qui a mis en place une organisation et une conférence algérienne sur le climat.
Comment s'appelle votre organisation ?
CAC, c'est un collectif en fait qui rassemble plusieurs associations environnementales et qui traitent de la pollution. Il y en a tellement qu'on pourrait parler de la pollution des nappes phréatiques par l'huile d'Ascarel, on pourrait parler par exemple de l'État qui est en train de promouvoir l'agriculture saharienne avec l'exploitation des nappes aquifères à des débits vraiment extrêmement élevés, non adaptés. On pourrait parler qu'il n'y a pas de traitement de déchets en Algérie par exemple. On pourrait parler de l'avancement du désert, du Sahara qui grignote sur les terres arables, c'est terrible.
Donc il y a un vrai mouvement associatif en Algérie pour défendre l'environnement, mais vous avez du mal à vous exprimer.
Oui, parce qu'en face les autorités, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'ouverture. La société civile n'est pas prise en compte et considérée. D'où l'importance d'avoir du passage de l'Odyssée Ben Battuta, ce qui permet de relier entre les deux rives notre voix.
Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Marrakech ?
Vous savez que, vu que l'Algérie est un pays assez fermé, ça nous a permis de rencontrer des gens qu'on a connus, en fait, que virtuellement. Et là, on a eu des contacts, on a eu des discussions, on a eu des débats et peut-être des projets en commun.
Guillaume Durin, on a quand même l'impression qu'il y a une déconnexion entre ce qui se passe dans le centre de conférence et les Marocains. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette déconnexion ?
C'est le fait qu'on est sur une espèce de politique des experts, de choix politiques, experts, savants.
En même temps, on ne peut pas confier le destin de l'humanité.
On ne peut pas confier le destin de l'humanité à l'humanité ?
Si, à l'humanité, mais il faut bien des gens qui aient les capacités de gérer ces enjeux qui sont extrêmement importants.
C'est un grand débat. C'est évidemment que les experts ont une importance, évidemment. Mais quand le dialogue se fait entre décideurs et experts, et qu'on considère que les citoyens n'ont pas le savoir suffisant, on voit bien, dans le cas des oasis, concrètement, on voit bien dans le cas du mouvement Stop Pollution, on voit bien que ces gens-là, ils ont les compétences pour parler d'adaptation. Ils connaissent la résilience, c'est ce qu'ils font tous les jours. Les femmes des communautés du Sénégal, les 40 000 femmes de la FENAGI, la Fédération Nationale des Femmes Transformatrices de Poissons, elles passent leur temps à travailler la question de l'adaptation. Pourquoi ? Parce qu'elles se prennent des chocs. Elles ont pris le choc de la colonisation, elles ont pris le choc de la mondialisation, elles prennent le choc du changement climatique. S'adapter, c'est leur vie quotidienne. Et elles évitent que les tissus sociaux explosent, que leurs enfants soient condamnés à prendre les barques et à mourir en Méditerranée.
Mais comment faire pour que tout ce qu'on vient d'entendre soit connecté avec ce qui se passe à l'intérieur de la COP22? Là, par exemple, vous n'êtes même pas aux abords du centre de conférence, vous êtes dans un espace autogéré à quelques kilomètres.
Anne-Cécile, c'est un choix. C'est le choix d'être justement dans la société civile marocaine. Évidemment, on fait le pas de côté. Est-ce qu'il n'est pas temps pour les peuples du monde entier de prendre à bras-le-corps cette thématique concrètement, c'est-à-dire d'aller concrètement dans les lieux de vie, de vivre avec les gens, de travailler avec les gens qui ont encore une fois les solutions. Et on voit que quand on part des solutions, la question des problèmes transversaux, elle est posable.
Mais ça veut dire que vous pariez sur la mobilisation citoyenne de tous, alors que bon, la plupart des gens sont dans leur quotidien et n'ont pas forcément envie de changer leur façon de se nourrir, de se loger, de consommer.
bien sûr. Sauf que quand votre enfant souffre de l'asthme, vous vous posez la question de la qualité de votre qualité environnementale. Quand vous avez du diabète, vous vous posez la question de la malbouffe, comme on le dit. Quand vous perdez votre travail parce que la énième crise bancaire a mis votre petite entreprise à terre, vous vous posez la question d'un modèle économique plus résilient. Donc ces solutions concrètes, elles concernent en fait la question du climat, mais elles concernent aussi la question du bien-vivre, la question d'éviter les conflits, d'avancer vers une société plus solidaire, etc. Si on ne prend pas en compte l'intérêt de ceux avec qui on parle et la trajectoire de vie de ceux avec qui on parle et qu'on les prend de haut en leur disant mais enfin vous ne vous mobilisez pas sur une question aussi essentielle que le changement climatique, il est normal qu'on soit 500 dans nos réunions et dans nos rencontres. Alors que si jamais, et c'est les mouvements citoyens actuels qui le font, si jamais on connecte avec les préoccupations quotidiennes, nos préoccupations quotidiennes, celles de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères, eh bien quoi ? Eh bien il y a des centaines de milliers de personnes qui se mettent en action. Et c'est ça le défi, c'est qu'on reprenne en main nos destins, et c'est à cette condition-là que les peuples du monde vont régler le problème climatique.
Et cette prise de conscience que le changement climatique et ses impacts nous concernent tous est urgente pour éviter des chocs comme l'élection de Donald Trump et pour enrayer les vagues de migration et les tensions qui ne cessent d'augmenter dans de nombreux endroits du monde.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Bonjour François Gémen.
Bonjour.
Vous êtes directeur exécutif du programme politique de la Terre à Sciences Po Paris et chercheur à l'Université de Liège. On a l'impression ici à Marrakech que d'une part il y a des initiatives citoyennes comme celle dont on vient de parler, donc cette odyssée des initiatives, et puis une dynamique qui est en marche depuis l'accord de Paris au sein des négociations internationales avec le politique qui a fait son travail et les entreprises aussi qui se mettent dans le droit chemin vers une économie décarbonée. Donc finalement, tout va bien.
On a un peu l'impression effectivement d'être bercé d'illusions et on a l'impression aussi d'être dans une sorte de bulle ici à la COP22 où chacun se convainc finalement que c'est un processus qui est en marche, qui est inarrêtable et qui n'est plus dépendant des contingences politiques. Et donc chacun cherche un peu par exemple à minorer l'impact de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis.
Mais est-ce que cette déconnexion entre le politique et la société civile, qui toutes deux pourtant revendiquent cette dynamique, ne s'exprime pas justement par un vote pour Donald Trump ?
Certainement, et c'est quelque chose qu'on observe dans les grandes démocraties aujourd'hui, on observe de plus en plus cette montée des populistes et parfois un mouvement climato-sceptique qui est connecté à du racisme et à une attitude anti-immigration. Donald Trump est à la fois raciste et climato-sceptique, et ce n'est sans doute pas un hasard s'il combine ces deux tares. Et je dirais que la COP22, quelque part, c'est peut-être l'opportunité précisément d'ouvrir ce modèle de négociation et d'y faire entrer non plus seulement les États, les gouvernements, mais aussi des acteurs de la société civile, des entreprises, bien entendu, et des industries, et aussi, je crois en premier lieu, ceux qui sont les victimes de ces impacts du changement climatique et qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment voix au chapitre. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que cette COP puisse être aussi l'occasion de repenser ce modèle de négociation pour y faire entrer directement la société civile. Et je crois que c'est aussi une façon, sans doute, de réduire ce fossé entre ce qui se passe au niveau diplomatique et la réalité des impacts du changement climatique. Puisque la réalité des impacts, c'est que des millions de personnes sont victimes des impacts du changement climatique et qu'on est ici dans une bulle où on essaie de se convaincre que tout va bien, qu'on est sur la bonne voie et que le processus est inarrêtable.
Tout va bien, je ne sais pas si c'est quand même à ce point-là, mais c'est vrai qu'on a entendu, par exemple, les témoins de cette odyssée des initiatives qui expliquent qu'ils essayent localement, en tant que citoyens, à leur niveau, de se battre contre la pollution, contre le capitalisme qui peut faire des ravages. Ça montre une certaine colère qui monte dans la société. Et cette colère, faut qu'elle soit entendue. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, là ?
Il y a un grand danger, parce qu'il y a effectivement une colère et un sentiment d'injustice très profond, et un ressentiment qui naît de plus en plus par rapport aux impacts du changement climatique dont on connaît les responsables. Et si en plus ces responsables se défilent, comme c'est le cas avec les États-Unis pour le moment, on imagine bien que ce ressentiment se transforme en colère, voire potentiellement en violence tournée contre ceux qui sont considérés comme responsables de ces impacts du changement climatique.
On sait qu'il y a une grande partie des migrants qui quittent leur pays aussi à cause des conséquences des changements climatiques. Est-ce que ça ne met pas un peu de réalisme quand même ?
On ne ne veut pas voir qu'une grande partie des migrants économiques qui arrivent en Europe aujourd'hui et qui traversent la Méditerranée dans des conditions innommables sont aussi chassés de chez eux par la dégradation des sols, par la désertification, et que ce qu'on appelle des migrants économiques sont souvent, lorsqu'il s'agit de migrants africains, aussi des migrants environnementaux. Sur un continent comme l'Afrique, où il y a autant de gens qui dépendent de l'agriculture et des conditions environnementales pour leur survie, l'économie et l'environnement, c'est souvent la même chose.
En fait, c'est une course, cette histoire de lutte contre les changements climatiques. C'est une course pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, une course pour maintenir la paix sociale et la justice sociale, et une course de capacité d'adaptation, que ce soit tant pour les populations que pour les entreprises en transition. Si on ne gagne pas cette course, on risque d'assister à un monde qui va être plutôt chaotique.
Bien entendu, c'est une course contre le temps. Ce n'est pas un problème qu'on va pouvoir passer à la génération future. Dans 20 ans, on saura si nous avons réussi ou si nous avons échoué face aux défis climatiques. Et malheureusement, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a le sentiment que ce sentiment d'urgence, il s'étiole peu à peu et qu'on se convainc qu'on est sur la bonne voie alors que nous ne sommes pas du tout sur la bonne voie et qu'il n'y a finalement pas d'urgence. Même l'accord de Paris, qui est un accord extrêmement important mais qui malheureusement arrive déjà beaucoup trop tard, il arrive à la COP 21, c'est un accord qu'on aurait dû faire à la COP 1. Cet accord de Paris, il ne s'appliquera qu'à partir de 2020. Il y a aujourd'hui de grandes incertitudes qui pèsent sur lui, notamment en raison du retrait annoncé des États-Unis. Et c'est sûr qu'avec la présidence de Donald Trump, nous allons perdre 4 ans, peut-être 8 ans s'il fait un deuxième mandat. C'est du temps qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Et donc, il faut absolument que nous retrouvions ce sentiment d'urgence.
Alors, comment faire ?
Je pense que l'enjeu, c'est de repolitiser la question du changement climatique. Ce qui m'effraie, c'est de penser qu'on peut aujourd'hui être élu président d'une grande démocratie en s'affirmant climato-sceptique. Ce simple fait devrait, à mon sens, disqualifier complètement tout candidat aux plus hautes fonctions dans une démocratie. Ce n'est pas le cas et ça dit bien à quel point la question du changement climatique est dépolitisée ou considérée comme apolitique. Je pense qu'il faut la repolitiser pour qu'elle devienne la matrice de nos choix collectifs.
Mais la repolitiser, ça veut dire quoi ? Il y a eu à Marrakech, cette semaine, plus de 80 chefs d'État qui sont venus et de représentants de gouvernement. Il y avait 193 pays représentés. Le personnel politique est là.
La repolitiser, à mon sens, ça veut dire que les gens s'en saisissent comme citoyens et non plus seulement comme consommateurs. Aujourd'hui, je pense que parmi nos auditeurs, la plupart de ceux qui nous écoutent savent ce qu'ils peuvent faire au quotidien pour réduire leur empreinte carbone, utiliser davantage les transports en commun, mieux isoler leur logement, etc., etc. C'est important, mais c'est ce qu'ils peuvent faire en tant que consommateurs. Ce n'est pas ce qu'ils peuvent faire en tant que citoyens. Et si nous voulons relever le défi climatique, il faut que nous puissions nous en saisir comme citoyens, c'est-à-dire peser par nos choix collectifs et pas seulement par nos choix individuels. Les choix individuels, c'est important, mais globalement, on estime qu'ils contrôlent à peu près 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ça veut dire que 85% sont contrôlés par nos choix collectifs. Il faut absolument que nous nous en ressaisissions de l'enjeu climatique.
Alors ça passe par quoi ? Par le vote ?
Ça passe notamment par le vote, ça passe par les médias, ça passe par les conversations et les débats publics sur ce sujet, ça passe par l'épargne par exemple. Aujourd'hui, il y a encore des investissements considérables qui sont faits pour les énergies fossiles à partir de l'épargne des gens. Mais la plupart des gens, et je suis sûr de ceux qui nous écoutent, n'ont aucune idée que leur épargne, par exemple que leur épargne pension qui paiera leur retraite, est en train de financer aujourd'hui l'industrie du pétrole et du gaz. Il faut absolument que les gens se ressaisissent de cette question.
Et ce sursaut citoyen peut venir de l'éducation. Il y a de nombreux programmes dans les écoles, comme ceux que les élèves du lycée Victor Hugo de Marrakech ont eu la chance de suivre.
Je m'appelle Madame Sophie Villomet, je suis professeure de sciences économiques et sociales au lycée Victor Hugo de Marrakech.
En tant que professeure de sciences économiques et sociales, vous avez fait rentrer donc le climat dans cet établissement à travers de multiples actions. Depuis septembre 2015, donc c'était dans la perspective de la COP 21. Qu'est-ce que vous avez fait en gros depuis septembre 2015 ?
Alors en septembre 2015, nous avons signé un partenariat avec l'association Climates. Ça nous a permis de faire rentrer dans le projet qu'ils appellent COP in Miami. Paris City. Donc nous sommes les COP leaders sur la ville de Marrakech. Donc nous menons le projet COP in Marrakech. Alors ça a commencé par une phase de sensibilisation aux enjeux climatiques auprès des élèves de première ES en septembre 2015. Ensuite, nous avons réalisé une simulation de négociation puisque c'est vrai qu'on voit les COP, on entend parler de COP, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Les citoyens ne sont pas forcément sensibilisés réellement. On voit des gouvernants prendre des décisions, mais on ne le sait pas. Donc les élèves l'ont vécu eux-mêmes et ils ont vu que ce n'était pas si facile que ça. Ensuite, nous avons participé à la conférence internationale de la jeunesse, donc la COI 11, qui avait lieu donc à Rabat avant la COP 21, où là, les élèves ont pu être véritablement sensibilisés aux enjeux climatiques, notamment par rapport au Maroc, puisque nous avons échangé avec des étudiants, des scientifiques, notamment de l'Institut de recherche et de développement, avec des membres du gouvernement, afin de faire un état des lieux de ce qui est fait, de ce qui pourrait être fait.
Et pour la COP22, alors qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors pour la COP22, nous avons créé au sein du lycée un club inégalité économique et sociale où la phase 1 concerne les problématiques d'accès à l'eau. Donc il y a 11 élèves qui font partie de ce club. Ils ont travaillé donc sur les différenciations d'accès à l'eau, donc pour des questions de revenus. Si on n'a pas les moyens de payer une facture d'eau, même si on a la distribution de l'eau potable, on ne peut pas y accéder. Ensuite, il y a tout le problème de la ressource en elle-même qui gère l'eau au Maroc et particulièrement à Marrakech. Et ce projet-là est été présenté au séminaire organisé en partenariat par l'IRD et l'AEFE, où les élèves ont présenté leur travail, ont échangé avec plus de 20 délégations venant de pays différents, tels que le Bénin, le Sénégal, le Burkina Faso, mais des lycées publics français. Et on a échangé pour arriver à rédiger ce qu'on appelle une résolution que l'on a présentée le 11 novembre à la COP22, lors du séminaire 150 jeunes, un climat sous surveillance, où on a interpellé des personnalités du monde scientifique, mais également des représentants des Nations Unies, de l'UNESCO, pour leur faire part de nos préoccupations et des préoccupations des jeunes.
Justement, il y a plein de jeunes autour de moi. Je vais te demander de te présenter.
Alors, je m'appelle Wafa Rafi, j'ai 17 ans et je suis élève en terminale ES.
Tu as participé à la COI 12, c'est-à-dire la réunion des jeunes. Ça s'est passé comment ?
Alors, la COI 12, c'était comme une sorte de chance pour avoir un échange avec le monde, un échange avec des personnes qui viennent du monde entier. On a eu la chance de connaître des lycéens qui viennent d'Indonésie, de Bali, mais aussi des lycéens de France, des personnes qui viennent d'Angleterre, du Japon, de plein d'autres pays. Et c'était un peu pour faire converger nos forces, converger nos pensées, nos solutions à nous, nos solutions, celles de la jeunesse, pour essayer de résoudre ces problématiques du réchauffement climatique.
Alors, quelles sont les solutions que toi, tu souhaites défendre, par exemple ?
Alors moi, je souhaite avant tout promouvoir une éducation qui soit éco-responsable, une éducation pour promouvoir un peu une sensibilisation plus accrue au changement climatique, surtout pour la jeunesse, parce que nous sommes la jeunesse, nous sommes la première génération qui va vivre avec une recrudescence des conflits liés au manque d'eau, liés au manque de ressources, avec des pays qui vont certainement disparaître, un planisphère qui va être en perpétuel changement, et ça, c'est pour un peu défendre notre droit à accéder à ces sphères de décideurs pour essayer de défendre un peu nos points de vue, nos solutions que l'on a apportées.
Et est-ce que tu as l'impression que ce qui se passe à quelques kilomètres dans les salles de négociation, ça te concerne directement ou c'est complètement déconnecté ?
Bien sûr que ça me concerne parce que moi, en tant qu'habitante à Marrakech, j'ai vécu ces dernières années des années de sécheresse qui étaient très fortes. Cet été, ça a été l'été le plus chaud jamais enregistré au Maroc, jamais enregistré à Marrakech. Et on a vécu un peu ce manque d'eau, ce manque de pluie qui a impacté directement nos vies. Donc pour moi, organiser cette COP à Marrakech, c'est un peu donner un signal d'alarme à tous ces pays qui ne sont pas parmi les plus polluants, mais qui seront paradoxalement ceux qui subiront les conséquences les plus fortes du changement climatique. Donc ce n'est pas que des paroles en l'air, c'est aussi des actions et porter l'Afrique et les pays en voie de développement comme étant au centre des discussions internationales.
Je m'appelle Céline Elak, je suis enseignante à l'école Auguste Renoir à Marrakech.
Et qu'est-ce que vous avez fait donc avec les élèves de primaire à l'occasion de la COP22 ?
Bon, déjà toute l'année, on a préparé un petit peu tout ça. Et puis, on a voulu marquer l'événement le mardi 8 novembre par une journée banalisée où les enfants n'ont pas fait classe comme d'habitude. Ils ont participé à des ateliers qui ont été organisés par les enseignants. On a parlé de tri sélectif, on a parlé de pollution, pollution de l'air, de la mer. Les enfants ont fait des activités artistiques autour du recyclage. Et cette journée donc a été organisée avec tous les enseignants de l'école et notre directeur, Monsieur Denis Mal.
Et certains d'entre eux sont allés à la COP22.
Oui, on a envoyé un groupe de reporters. Ils sont 10. Alors on a envoyé des enfants de CM1, CM2 et 6e. Alors ces enfants-là sont donc les jeunes reporters qui ont un blog et qui sont donc les petits journalistes de l'école. Ils avaient donc pour objectif de couvrir l'événement de la COP.
Alors parmi les reporters, il y avait toi. Comment tu t'appelles ?
Bonjour, je m'appelle Camille.
Et qu'est-ce que tu as fait à la COP22 ?
Oui, on a fait des reportages avec des interviews, des articles, des photos, il y avait des vidéos, il y avait plein de choses.
Et toi, qu'est-ce que tu as fait comme article, par exemple ? Tu as parlé de quoi ?
J'ai parlé des différentes choses qu'on a appris sur place, comme par exemple que les glaces étaient en train de fondre et qu'il y avait plusieurs animaux pour qui la neige, c'est vital pour eux, et du coup, ils allaient disparaître du monde.
Qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Je pense qu'il faut agir parce que ça nous concerne tous, parce que c'est nous qui allons vivre dans ce monde. Et du coup, il faut faire des gestes pour pouvoir réduire le réchauffement climatique.
Quel genre de gestes, par exemple ?
Comme par exemple, il ne faut pas faire des dépenses inutiles en eau et en électricité. Il ne faut pas jeter ses ordures n'importe où. Et il faut essayer d'être écolo.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et être écolo, ce n'est pas un gros mot. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, chacun peut faire sa part. Bonne semaine, on se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.